C'est notre cinquième sermon dans notre série sur l'Église. Alors, cette semaine, nous allons voir l'Église et les moyens de grâce. Alors, si on se souvient de ce qu'on a déjà vu, dans le premier sermon, on avait vu l'Église, quelle était sa nature, quelles étaient ses marques et quels étaient ses buts. Dans le deuxième sermon, on avait regardé l'Église, sa pureté et son unité. Dans le troisième, on avait regardé l'Église, sa puissance. Dans la quatrième, la semaine dernière, on avait étudié l'Église, son gouvernement. Cette semaine, c'est l'Église et les moyens de grâce. Pourquoi c'est important qu'on révise ça? Il y en a 11 moyens de grâce. Si on dit que c'est un moyen, donc c'est quelque chose qu'il faut utiliser si on veut avoir la grâce qui se rattache au moyen. Alors, si on veut devenir des bons chrétiens forts, il faut utiliser le maximum de ces moyens-là, et c'est important de les connaître si on veut bien les utiliser. Alors, beaucoup de grâces sont déversées dans le cadre des activités et de la vie de l'Église locale. Et ce sont tous les moyens de grâce, des choses qui se déroulent dans l'Assemblée, dans l'Église locale. Comment pourrait-on définir qu'est-ce que c'est un moyen de grâce? Les moyens de grâce sont toutes les activités que Dieu utilise au sein de l'Église locale pour donner davantage de grâce aux chrétiens et communiquer sa bénédiction. C'est important de se souvenir un petit peu, c'est quoi une grâce? Souvent, on a utilisé l'expression « faveur imméritée ». Moi, je vais plus loin parce que je crois que c'est biblique. C'est une faveur déméritée. Dieu nous donne des faveurs qu'on ne mérite pas. On mériterait le contraire. Et il nous fait des faveurs, et il nous a donné toute une multitude de moyens. Et ces moyens-là, c'est à nous de les utiliser si on veut croître dans la grâce, si on veut devenir plus fort. Alors, je vais commencer par vous donner la liste. Mais essayez pas d'y retenir tous, à moins que vous ayez une mémoire phénoménale. Si vous en avez une, tant mieux pour vous. Remerciez le Seigneur, ce que j'aimerais avoir. Alors, je vais commencer par les nommer, et après, on va les reprendre une par une, puis on va essayer de développer un peu en quoi ça consiste. Alors, le premier, pas pour rien qu'on l'a mis le premier, l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, c'est ce qu'on est en train de faire ce matin, c'est un moyen de grâce. Si vous êtes ici, vous recevez une grâce ce matin, d'une façon ou d'une autre, vous augmentez votre connaissance du Seigneur, de la doctrine de l'Église ce matin. Une autre fois, c'est quand on sera dans le livre d'Hébreux, vous allez augmenter votre connaissance du livre des Hébreux. Le deuxième, c'est le baptême. Ça donne bien parce qu'on va avoir un baptême double d'ici quelques semaines. Alors, c'est un moyen de grâce, le baptême. On va voir un petit peu dans le développement de la leçon comment le baptême devient un moyen de grâce que le Seigneur utilise. Le troisième, c'est la scène qu'on appelle ou le repas du Seigneur. Alors, vous avez sûrement, quand vous êtes tous venus ici, vous avez tous vu qu'une fois par mois, on prend le repas du Seigneur. C'est un moyen de grâce que le Seigneur nous a donné aussi, et on se doit de l'utiliser le plus souvent qu'on peut. Le quatrième, c'est ce qu'on pourrait appeler la prière communautaire. La prière communautaire, c'est la prière que l'on fait en église, en groupe. Alors, quand vous venez à votre étude du mercredi soir, ou si vous venez à la soirée de prière qu'on fait tous les soirs, vous êtes dans la prière communautaire. On le sait, quand on est en groupe, on n'est pas seul, il faut prier. Le Seigneur nous demande de rentrer dans ta chambre, ferme la porte, prie seul. Mais il nous demande aussi de prier avec les autres croyants. Donc, la prière communautaire, c'est chaque fois qu'on a une chance de venir prier avec nos frères et sœurs, on se devrait de le faire. La cinquième, c'est l'adoration. Là-dessus, on va avoir très long à dire, parce que ceux qui ont été dans la leçon d'en bas, c'est parce qu'il y a de la confusion aujourd'hui sur le mot adoration. Les gens, beaucoup de personnes, des chrétiens même, vont dire que l'adoration, c'est ce qu'on fait ce matin. Vous venez à l'église, on chante les louanges, on prie le Seigneur, on étudie les Écritures, on a des échanges entre frères et sœurs, de la communion fraternelle, etc. Tout ce qui se passe quand on se rassemble. Mais l'adoration, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus large que ça. On va reviser ce qu'on avait vu en bas très rapidement. On n'aura pas le temps de reviser chacun des points. Il y a au moins une trentaine de points différents. Qu'est-ce que ça comprend, l'adoration? Si on veut faire un résumé rapide, c'est facile. L'adoration, c'est notre vie de tous les jours, de tous les instants. à partir du moment que tu te lèves le matin jusqu'au moment que tu te couches le soir, il se produit une multitude d'événements. Et on peut adorer dans ces moments-là ou ne pas adorer, dépendamment si on est dans l'obéissance ou si on ne l'est pas. On va voir que tout ce que ça comprend. Et quand on voit tout ce que ça comprend, on voit que l'adoration, c'est un gros contrat. Alors, il y a autre chose aussi. Le sixième point, c'était la discipline. Alors, on va développer un peu plus tantôt qu'est-ce que c'est la discipline et comment ça amène de la grâce à l'Église. C'est un moyen pour maintenir la pureté. C'est un moyen aussi pour réintégrer ceux qui s'éloignent. Alors, c'est une grâce en soi. Après ça, il y a les offrandes. Les offrandes, c'est la dîme de nos revenus. Et quand on parle de la différence entre la dîme et les offrandes, c'est on a fait un petit tableau à l'arrière pour démontrer qu'en plus de notre dîme, si on veut, on peut donner un surplus d'argent aux différentes affaires, l'école du dimanche, la librairie de l'école du dimanche, les missions étrangères, les missions, l'évangélisation locale, on a le CERB, on a CFOI. C'est toutes des œuvres chrétiennes, mais on vous a déjà expliqué, on revient un petit peu là-dessus, c'est que la dîme, c'est une affaire, mais on demande aux gens que s'ils veulent donner, ils sont libres de donner comme ils veulent. Le Seigneur nous demande toujours de le faire librement et de le faire joyeusement, parce que ça contribue à améliorer la vie spirituelle des gens de toutes sortes de façons. On ne rentrera pas dans les détails non plus là-dessus. Et le huitième moyen de grâce que le Seigneur nous a donné, ce sont les dons spirituels. C'est un peu surprenant, mais c'est pas particulièrement cette église-ci que les gens connaissent pas leurs dons spirituels. En général, dans beaucoup d'églises, je ne sais pas si c'est à cause qu'il n'y a pas eu d'enseignement là-dessus, je ne porte pas de jugement, là. Je fais simplement constater. Et c'est dans toutes les églises que j'ai été, c'était la même chose. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est de même. Mais cependant, je me propose de faire une étude là-dessus éventuellement. Et il y a des façons de découvrir son don. Et c'est important qu'on le sache, parce que l'Esprit de Dieu nous dit que l'Esprit nous a donné à chacun de nous, sans exception, si tu es chrétien, automatiquement, tu as reçu un don. Lequel des dons qu'il t'a donné, c'est important de le connaître, parce que plus on le connaît, plus ça nous donne la facilité pour l'exercer. Et la Bible nous dit toujours que les dons spirituels, c'est toujours dans le but de l'édification commune. Quand on se rassemble, on s'en rend peut-être pas compte, mais les dons spirituels, ils voyagent, ils s'échangent, ils se produisent des échanges dans une assemblée. On n'est pas toujours conscient que c'est là, mais c'est bon qu'on le soit. Parce qu'il y en a qui ont le don d'encouragement, il y en a d'autres qui ont le don de ci, de ça. On verra les différents dons et éventuellement, on fera une série d'études là-dessus pour apprendre à découvrir le nôtre. C'est important qu'on le fasse éventuellement. La neuvième, c'est la communion fraternelle. On va voir de quelle manière les relations entre chrétiens, ça contribue à nous rapprocher du Seigneur. Et quand je dis les relations entre chrétiens, c'est pas nécessairement juste le dimanche ou juste le mercredi. On se devrait, comme chrétiens, d'essayer de multiplier les occasions et de saisir aussi toutes les occasions que l'Église locale nous donne pour avoir des activités en commun. On peut s'inviter les uns les autres à manger chez nous. On peut se tenir ensemble et d'autres choses. On verra ça tantôt. La dixième moyen de grâce, c'est l'évangélisation. Bien sûr qu'il y a un moyen, il y a de la grâce qui est rattachée à ça, parce que automatiquement, quand on évangélise, on est en train de prendre la grâce de Dieu et de la faire connaître à d'autres personnes. Et il y a beaucoup de grâce aussi. Le Seigneur nous dit aussi, chaque fois qu'on obéit, le Seigneur nous demande quelque chose et qu'on obéit à ce que le Seigneur nous demande, il y a une grâce qui est rattachée à ça. Et la onzième, n'a pas la moindre, c'est le service au prochain. Le service au prochain, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les Écritures, les Juifs étaient portés à penser, « Mon prochain, c'est qui? » Alors, le Seigneur avait toujours donné l'exemple de la personne qui avait été blessée, là, attaquée par des voleurs, et avait dit, il y avait un publicain qui avait passé, il y avait le Lévite qui avait passé, il y avait le sacrificateur qui était passé. Et ça, les Lévites et les sacrificateurs, c'était les leaders religieux du temps. Il voit quelqu'un qui s'est fait blesser, il passe droit. Le publicain, lui, c'était une personne qui n'était pas supposée être religieux. Lui, il arrête, puis il rend service. Le Seigneur, il dit, c'est qui ton prochain? Là, il les a montré que le prochain, c'est pas nécessairement juste nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Le prochain, c'est l'ensemble des êtres humains, tout simplement. Maintenant, on a vu la liste. Elle est longue, mais c'est le fun, parce que le Seigneur nous en a donné beaucoup. Il y a beaucoup de variétés là-dedans, et on devrait tous les utiliser. On va commencer à faire la présentation des moyens particuliers. Donc, le premier, on avait dit que c'était l'enseignement de la parole de Dieu. Ça l'a servi... La parole de Dieu avant notre salut, puis après notre salut. Comment Dieu sauve quelqu'un normalement? Soit par un traité, soit par, vous avez entendu un prédicateur à la télévision, vous avez entendu un prédicateur dans une assemblée, ou il y a un chrétien qui vous a témoigné personnellement. Donc la parole de Dieu, elle a eu un rôle à jouer dans votre conversion. Et bien sûr, après la conversion, la parole de Dieu se doit d'être centrale dans nos vies et on se doit de l'utiliser quotidiennement autant qu'on peut parce qu'il y a un lien direct entre le temps que tu poses dans ta Bible et ta croissance spirituelle, ça c'est indéniable. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Voyez-vous, le Seigneur est en train de nous dire que quand on a été sauvé, on a été sauvé par le moyen de la parole de Dieu. S'il y avait 200 personnes ici ce matin, toutes des inconverties, puis que je prêchais l'Évangile, est-ce que les 200 recevraient le salut automatiquement ce matin? La parole, c'est le moyen que le Seigneur utilise, mais il utilise aussi l'esprit. L'esprit, on pourrait considérer que la parole de Dieu, c'est comme un instrument. Et l'esprit, c'est celui qui souffle dans l'instrument. Alors, quelqu'un pourrait entendre la parole de Dieu, avoir rien compris, mais si l'esprit de Dieu souffle dans son instrument, qui est la parole, là, ça produit un effet permanent et un effet puissant aussi. Je voudrais juste vous donner l'illustration de la conversion d'Arthur Pink. Arthur Pink, c'est un homme brillant. Ceux qui ont lu ses livres, moi, j'aime beaucoup cet auteur-là. Il a beaucoup écrit sur énormément de choses. Et avant sa conversion, il avait été élevé chrétiennement, mais il était rendu dans le nouvel âge jusqu'aux oreilles. Et il était un homme brillant. Il avait été remarqué dans l'organisation du Nouvel Âge dans lequel il était. Le siège social était aux Indes. Il était tellement brillant qu'il avait été remarqué par le directeur de ce gros mouvement mondial-là pour devenir un écrivain pour eux. Un soir, il revient d'une réunion de cette affaire-là. Je pense que ça s'appelait la théosophie. Il revient de ça et il vient monter l'escalier pour s'en aller se coucher. Son père, il dit un verset. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Arthur remonte en haut, il n'a pas été capable de dormir de la nuit. Il dit, la parole, elle y roulait dans la tête sans arrêt. Ça a été le verset qui a amené sa conversion. Alors, on voit qu'un verset peut sauver une âme. Est-ce que le père d'Arthur Pink, ce soir-là, quand il lui a donné ce verset-là, avait la moindre conscience qu'en disant ça, il sauverait son fils, puis qu'il l'empêcherait de s'engouffrer dans la théosophie Nouvel Âge? C'est sûr que si cet homme-là aurait été dans la théosophie, il aurait fait énormément de mal, parce qu'il aurait entraîné, à cause de son talent, d'autres hommes à sa suite. Donc, avant notre salut, la parole agit. Elle agit aussi après notre salut pour nous faire grandir dans la foi. Acte 20, verset 32. « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. » Édifier, ça veut dire nous construire. La parole, elle a la capacité de nous construire. Alors, plus on va passer de temps dedans, plus on va être construit. La parole nous dit aussi qu'elle a un autre effet, c'est celui de nous nourrir. Bien sûr, au cours d'une journée, vous n'avez pas oublié de déjeuner un matin, moi je n'ai pas oublié, et vous n'oublierez pas de dîner à midi, puis vous n'oublierez pas de manger à soir non plus. Puis des fois avant de se coucher en plus. Mais la parole nous dit que la parole de Dieu, la Bible, ça nourrit notre âme. Du pain, ça nourrit notre corps, mais la parole de Dieu nourrit notre âme. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 4, c'est Jésus lui-même qui parle. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ça, c'est la Bible complète. Donc, nous nourrir, nous orienter. Si on s'en va dans le bois, en Abitibi, les bois sont grands, et si on n'a rien pour nous orienter, une boussole ou un GPS, on peut se perdre facilement. Moi, je sais bien que je ne suis pas un gars de bois, alors peut-être que je m'écarterais plus rapidement qu'un autre. La parole de Dieu dit qu'elle sert à nous orienter dans la vie. Vous avez sûrement déjà ressenti, mais on arrive dans la vie, après certains événements qui nous arrivent, on dirait qu'on ne sait plus trop où on s'en va. On a besoin de savoir dans quelle direction on s'en va. Comme par exemple, des fois, on change de métier ou on change de ville. On devient un petit peu... On a besoin d'orientation. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu » ou, dans le grec, c'est le mot « souffler ». Souffler directement par Dieu. Il ne faut jamais oublier ça, les Écritures, la Bible, le Seigneur nous dit que tous les mots, les Écritures, c'est le Saint-Esprit qui le souffle. Le souffle du Saint-Esprit est dans tous les mots des Écritures, du premier de la Genèse au dernier de l'Apocalypse. Et ça nous dit que cette parole-là, elle est utile. Et là, ça nous mentionne 4 choses. Enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Et ces 4 choses-là, ça a un but, parce que ça dit « afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli ». Alors, si un jeune commence à étudier l'informatique, avant qu'il devienne accompli, il y a des croûtes à manger. Mais nous aussi, avant qu'on devienne accompli de ce que le Seigneur veut de nous, on a des croûtes à manger, et les croûtes qu'on a à manger, c'est tout le livre. « Afin que l'homme de Dieu soit accompli », et il ne veut pas juste nous accomplir pour qu'on reste accompli. Ça dit « est propre pour toute bonne œuvre ». Ça nous prépare à être capable de donner, de servir les autres, une bonne œuvre. Maintenant, si on est dans la noirceur, je me souviens, un moment donné, je travaillais dans une caisse populaire la nuit. J'avais rentré dans une salle de bain où il n'y avait aucune lumière qui rentrait, la porte fermait très serrée, là, extrêmement serrée, même pas un reflet de lumière. Parce que quand on est dans la nuit, on se lève, il y a toujours un petit peu de lumière pour empêcher qu'on s'écrase les deux pieds. Mais quand tu es dans les ténèbres, les vraies ténèbres, il n'y a aucune lumière. Là. Et le feeling que ça donne, c'est noir, tu pourras pas faire un pas, tu vois absolument 0, 0, 0, 0. La Bible dit que elle est là pour nous éclairer. Ça dit dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » On marche dans la vie et on a besoin de la lampe et de la lumière. Plus que ça, la Bible dit qu'elle nous rend sages. Plus on l'utilise, elle nous rend sages. Psaume 19, verset 7, « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. » Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. C'est qui ça, l'ignorant? C'est nous. Il rend sage l'ignorant. Voyez-vous, des fois, quand on parle de quelqu'un, soit de l'évolution ou de quoi que ce soit, la personne qui est scientifique, qui croit qu'on est le produit de l'évolution, lui, il se pense sage. Mais nous, on dit qu'on est le produit de la création, on est sage. Parce que Dieu nous dit qu'on est le produit de la création et on le croit. Ça fait de nous des êtres sages. Et autre chose que ça produit, je peux vous le garantir, après quelques années de vie chrétienne, vous allez connaître des creux, des bouts, comment ils appellent ça, tu sais, les dentilles, là. Maintenant, vous êtes dans l'eau, puis là, boum, tombe en bas. Des fois, on a besoin d'être consolé. Et la Bible est une championne pour consoler. Ça nous dit dans le Romains chapitre 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures. » Les Écritures nous donnent de la consolation. Et je suis certain que je ne suis pas le seul. Moi, les psaumes, ça a un effet calmant sur moi, c'est incroyable. Si je file pas bien, là, je suis tout croche, puis je suis angoissé, puis j'ai peur ou quoi que ce soit, m'envoie d'un psaume, plus particulièrement d'un psaume de louange vers la fin. Et à un moment donné, c'est vrai que ça fait ça, ça te calme. Ça nous calme l'âme. Et autre chose que la Bible nous dit qu'elle fait sur nous, c'est que ça nous transforme. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu dit, quand la pluie descend, la neige descend, ça prépare le sol et ça donne du pain aux hommes. Ma parole, il dit, quand les gens la lisent, elle ne retourne pas à moi sans effet. Elle fait un effet. Elle accuse ou elle sauve, mais il dit, elle ne retourne pas à lui sans effet. Sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Autre chose qu'elle fait, c'est qu'elle brise nos résistances, puis... ceux qui ont quelques années d'expérience, ils savent que des résistances face à ce que Dieu nous commande, on a trop même. Mais ça nous dit dans Jérémie 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? » Parfois, la parole, elle nous fait un effet, même chose que si on prendrait un marteau et on brise le roc avec, ou comme du feu, quelque chose qui est inflammable, on met le feu après, ça... Et Dieu fait ça. Hébreux 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Voyez-vous pourquoi on lit la parole? Et la parole nous dit qu'elle est comme un miroir. On se voit dedans. Et elle nous reflète nos cochonneries, nos saletés. Elle nous les montre en pleine face. Alors, quand ça dit que ça juge les sentiments et les pensées du cœur, alors on a besoin de la lire, la parole, parce que c'est l'équivalent de se laver. Si vous êtes venu travailler après l'église, vous pouvez être sale quand vous arrivez chez vous. C'est sûr que vous avez le goût de prendre un bain, de vous laver. Mais on a besoin de faire la même chose avec la parole. L'enseignement de la parole de Dieu... est le premier et le plus important moyen de grâce de l'Église locale. Il comprend non seulement l'enseignement officiellement dispensé par les anciens, mais aussi l'enseignement dispensé dans les études bibliques, les classes de l'école du dimanche, la lecture de livres chrétiens sur l'Écriture et même l'étude personnelle de la Bible. Les Écritures nous enseignent que nous avons plusieurs devoirs à son égard. Et je dis bien devoir. Lire, écouter, méditer, mémoriser, étudier. Cinq devoirs qu'on a envers les Saintes Écritures. Et si vous allez voir les versets qui soutiennent toutes ces affirmations-là, vous allez voir que c'est pas si ça te tente, fais-le. C'est des impératifs. Alors on se doit de le faire. La deuxième, on est rendu deux jours au deuxième, le baptême par immersion. Alors, il y en a deux ici qui sont à veille de le faire. Matthieu 28, versets 19 et 20. Quand on dit que quand Dieu nous commande quelque chose et qu'on obéit, il y a une grâce qui est rattachée à ça, voici un exemple. Le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, avant son départ, Matthieu 28, versets 19 et 20, il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voyez-vous, emmener quelqu'un au Seigneur, c'est quelque chose. Mais d'en faire un disciple, ça c'est une autre game, parce que c'est l'ouvrage presque d'une vie. Et quand on a emmené quelqu'un au Seigneur personnellement, c'est un peu notre responsabilité de voir la croissance de la personne qu'on a conduite au Seigneur pour lui donner des bons conseils. Dans Actes 2, verset 38, Pierre lui dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Colossiens, chapitre 2, verset 12, « Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Baptême, donc, normalement, la plupart des gens qui sont ici ont déjà été baptisés, puis il y en a qui sont sur le bord de l'être, alors on est à la veille d'être une église de baptiser au complet. La troisième chose, c'est la scène ou le repas du Seigneur. Alors, Matthieu 26, versets 26 à 28. « Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Voyez-vous, il ne nous dit pas, « Cette tente, de temps en temps, va donc au repas du Seigneur. » « Prenez et mangez, buvez-en tous. » Alors, faut, quand on sait que le repas du Seigneur va venir, ici c'est une fois par mois, dans certaines églises c'est toutes les semaines, d'autres églises c'est une fois ou deux mois, pas important. L'important, c'est que quand vous savez que votre église locale a leur repas du Seigneur, vous devrez de tout faire pour être présent, parce qu'il y a une grâce de rattacher à l'obéissance de prendre le repas du Seigneur quand le Seigneur nous le demande. Parce que c'est lui qui nous le dit, il nous commande de le faire. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30, c'est souvent le passage classique qu'on utilise pour le repas du Seigneur. Paul, il dit, car j'ai reçu car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fit livrer, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, il dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Quand on prend le repas du Seigneur, il faut se souvenir de l'œuvre qu'il a fait pour nous. Et si on le ferait vraiment là, dans toutes ses dimensions, on tomberait fort probablement à genoux de joie, criant de joie. Ce que le Seigneur a fait pour nous, c'est tellement merveilleux. Parfois, on peut faire le repas du Seigneur, on peut le faire en manquant de profondeur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe, et la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. » Voyez-vous, le Seigneur prend son repas au sérieux. Quand on fait le repas du Seigneur, faut le prendre dignement, en étant bien conscient de ce qu'on fait. Parce qu'il nous dit ici, celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Le Seigneur, il niaise pas avec ça, comme on dit. Car c'est pour cela qu'il y a parmi vous, et voyez-vous, là, il mentionne des types de jugements que le Seigneur envoie pour prendre le repas du Seigneur indignement. Infirmité, maladie, mort. On ne rit pas, là. C'est Dieu qui parle. Alors, quand on reprend le repas du Seigneur, il faut le faire dignement, en étant le plus conscient possible de ce qu'on fait quand on fait ça. Quatrième point, la prière communautaire. La prière communautaire et la prière des membres les uns pour les autres sont de puissants moyens que le Saint-Esprit utilise quotidiennement pour bénir les chrétiens dans l'Église locale. Pensez-vous, vous posez une question, pensez-vous que si tout le monde cette semaine aurait prié pour moi tous les jours pour ce que je fais aujourd'hui, puis que vous l'avez fait ou vous ne l'avez pas fait du tout, pensez-vous que ça peut avoir une influence sur la manière dont le sermon va sortir? Ben oui. Et si moi j'ai prié pour chacun de vous cette semaine, à tous les jours, pensez-vous que ça peut avoir un effet sur le développement de vos vies? Bien sûr. Et la même chose, si on prie les uns pour les autres, on a une liste de membres, il ne faut pas se gêner de la prendre de temps en temps, et de passer les membres un par un. C'est sûr qu'on ne se connaît pas beaucoup, je ne connais pas tout le monde à la perfection, mais connais quand même les problèmes d'un puis de l'autre, puis je suis capable de mentionner des choses parce que je les sais. Mais plus on se connaît, plus on a de communion fraternelle, plus on est capable de prier intelligemment les uns pour les autres. Alors, la prière communautaire, très importante. C'est la volonté de Dieu qu'on prie ensemble. Acte 4, versets 24 à 30. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Voyez-vous, il demande au Seigneur, « Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Ça se peut-tu qu'on manque d'assurance quand on vient pour évangéliser? Ben oui, on en manque tout le temps, on en manque tous. Qu'est-ce que la parole nous dit de faire? Elle dit-tu, pratique ton métier, puis ils vont venir, ça va venir avec le temps? Non, la parole nous dit de demander à Dieu d'être capable d'annoncer sa parole avec une pleine assurance. Voyez-vous la différence? C'est pas qu'on... Notre force vient pas de nous, elle vient de Dieu. Il ne faut pas oublier d'aller la demander là où elle est. À verset 30, « En étendant ta main pour qu'il fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié... Écoutez bien ça. « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. » Imaginez-vous que ça arriverait ici, là. On aurait prié, puis ça se mettrait à shaker. On aurait-tu les kettles, comme on dit? Je t'ai rendu où, tout ça? 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça venait d'où le fait qu'ils pouvaient maintenant annoncer la parole de Dieu avec assurance? Parce qu'ils l'avaient demandé dans le verset 29. Alors, la demande et la réponse, il faut bien faire le lien. Si on ne fait pas le lien, on manque de bateau. Acte 12, verset 5. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église, ça ne dit pas « et un individu de l'Église », l'Église, l'ensemble des membres, ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Il était encore en train de prier dans leur local. Le Seigneur envoie un ange, libère Pierre de sa prison. Pierre arrive dans la porte, et là, il cogne à la porte. La personne, elle y voit à la face, elle dit, « Non, non, c'est pas lui, c'est un fantôme. » Alors ça, on va voir les autres. La preuve que parfois, on prie, on ne s'attend pas nécessairement à la réponse. Il priait, oui, correct. On aurait dit, c'est comme s'il ne croyait pas que Dieu pouvait le faire. Et Dieu l'a fait, et là, un moment donné, ils se sont réveillés, Pierre est entré, « Ben oui, c'est bien moi. » Et là, il lui a raconté l'histoire. Matthieu 18, versets 19 et 20. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous, voyez-vous, remarquez, c'est pas tout seul, là, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Une prière faite à deux, c'est plus puissant qu'une prière tout seul. Une prière faite à trois, c'est plus puissant qu'une prière à deux. Le nombre est là. Et parce que l'importance là-dessus, c'est le fait qu'on est d'accord. Parce que la parole, j'écoute une personne qui prie, et si je dis « Amen », c'est parce que je suis d'accord avec ce qu'elle demande. Et si moi je prie, puis les personnes aussi autour de moi disent « Amen », c'est parce qu'ils sont d'accord. Alors, on est d'accord, qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est fort. C'est la parole de Dieu même qui nous dit. Alors, faut profiter de toutes les occasions de la prière communautaire. Cinquième, là, on tombe dans l'adoration. Je vais essayer de faire ça assez rapidement, mais c'est un peu de retenir l'idée que l'adoration, c'est pas uniquement nos cultes le dimanche. C'est vraiment tous les instants de notre vie de pensée, notre vie de parole, notre vie d'action, et même notre vie d'omission, parce que quand on omet, on n'est pas en train d'adorer non plus. Alors, adorer va beaucoup plus loin que le culte dans l'Église locale. Adorer, c'est une activité de tous les instants de notre vie et qui implique une obéissance la plus parfaite possible à tout ce que Dieu nous commande. Et il nous en commande-tu des choses, le Seigneur? Il ne gêne pas. La liste est longue. C'est ployer le genou devant tout ce qu'il commande. Adorer, c'est ployer le genou devant tout ce qu'il commande. Quand il nous donne nos devoirs, des hommes envers les maris envers leurs femmes, des femmes envers leurs maris, quand vous faites ce que le Seigneur vous demande, vous adorez. Quand vous ne faites pas ce que le Seigneur vous demande, vous n'adorez pas. Pas plus compliqué que ça. Les devoirs des parents vers les enfants, les devoirs des enfants vers leurs parents, ça comprend tellement de choses, toute notre vie de tous les jours. Alors, quand on avait fait la leçon en bas, voyez-vous, j'avais tout mis sur les points où on voit tout ce que ça comprend. Ça comprend tellement de choses. Il y a une adoration qu'on appelle intérieure. Donc, l'adoration intérieure, c'est celle que les autres ne voient pas. Vous pouvez voir que je viens à mes cultes à tous les dimanches. Ça, vous le voyez. Mais ce qui se passe dans la maison chez nous, ça, vous ne le voyez pas. Mais Dieu, lui, il voit. Alors, c'est ça la différence. Il y a une adoration publique, il y a une adoration interne. Et ça comprend absolument toute une liste. Si jamais cette liste-là, vous ne l'avez pas, vous me la demanderez parce que c'est important de savoir qu'est-ce que c'est l'adoration. Donc, ça comprend énormément de choses. Le sixième point, c'est la discipline. Une église qui ne fait plus de discipline, automatiquement, va s'affaiblir et amener de graves conséquences. La discipline, c'est pour maintenir la pureté de l'église et ramener les égarés. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 6, Paul y parle aux Corinthiens. Il dit, « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. » Imaginez-vous, il y avait un à l'assemblée qui sortait avec la femme à son père. Paul dit, « Oh, il ne faut pas vous accepter ça, là. Faut faire quelque chose. » Alors il dit, « Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. » Regardez ce qu'il dit, c'est sévère. « Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » L'idée, c'est que si vous tolérez le mal public, le mal visible dans l'assemblée, ça fait comme du levain dans la pâte, ça fait lever la pâte. Ça a de l'influence sur le reste des membres. Et les autres membres qui ont d'autres problèmes dans d'autres péchés vont dire, « Ben, c'est pas pire que lui, pas pire que elle. » Il faut le faire. C'est très désagréable à faire, la discipline, parce que c'est des gens qu'on parfois on a connus pendant des années. Mais si on les voit tomber dans le péché, et après les avoir avertis, et après les avoir conseillés, ils demeurent dans le péché, le Dieu nous dit qu'on se doit de les exclure de l'Assemblée par une procédure bien précise qui est déterminée dans les Écritures. Il faut le faire, parce qu'à partir du moment où une Église ne fait plus cela, dites-vous, elle s'affaiblit énormément. Autre chose, on est rendu au septième point, les offrandes. Donc, les offrandes, la dîme, c'est pas compliqué, c'est 10% de ton revenu. Les dons spécifiques, c'est les dons. Tu donnes de l'argent pour l'école du dimanche, tu donnes de l'argent pour le CERB, tu donnes de l'argent pour CFOI, tu donnes de l'argent pour les missions internationales, tu donnes de l'argent pour l'évangélisation locale, tu donnes de l'argent pour le CERB, je n'ai-tu oublié, en tout cas, CFOI, je pense que c'est le CERB. Je pense que j'ai nommé les CERB. Malachie 3.10, on l'a étudié quand on était Lorraine et José en bas. C'est important de réaliser que Dieu nous fait la promesse que si on obéit à ce qu'il nous demande concernant les dîmes, qu'il va nous donner quelque chose. Voyez-vous, dans Malachie 3.10, Ça dit, et puis c'est pas le seul verset, là, je n'ai pris seulement qu'un, mais il y en a d'autres, là. Mais celui-là est tellement convaincant. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu parle, puis dit, mettez-moi donc l'épreuve pour le fun, moi, si vous obéissez, si je ne vous bénirai pas. Mettez-moi donc l'épreuve. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il ne faut pas avoir peur. Quand le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve, il dit qu'il va te bénir, il dit qu'il va répandre sur toi, il va ouvrir les écluses des cieux. C'est une image forte. Ouvrir les écluses des cieux, ça voulait dire ça va tomber les bénédictions. Il faut croire ce que le Seigneur nous dit. Dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 12, ça nous parle plus des dons. Les dons, il faut les distinguer de la dîme. La dîme, c'est une partie de notre revenu pour l'entretien de l'Église locale. Mais les dons, ça peut être pour des ministères qui ont une influence au-delà de l'Église locale. Moi, si je donne de l'argent, disons, à un missionnaire d'Arbka qui est en France ou qui est en République dominicaine ou qui est, peu importe où qui est, si je prends de mon argent, puis je donne ça en plus de ma dîme, puis j'ai envoyé ça, pensez-vous que si la personne à l'autre bout, elle a des résultats dans son évangélisation, que le Seigneur ne me donnera pas une part de son travail? Parce que c'est moi qui le soutiens. C'est vous qui le soutiennent. Quand on soutient un missionnaire ou qu'on donne de l'argent à une œuvre chrétienne, on est en train de faire quelque chose de bien. Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 12, ça dit, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Quand on donne, il ne faut pas se dire, « Moi, mais là, il va me manquer ci, puis il va me manquer ci. » Non, donne-le avec joie. Ou bien non, réduis ton montant, mais fais que ce que tu le donnes avec joie. Et le verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Selon qu'il est écrit, « Il fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par votre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » N'est-ce pas que si on fait quelque chose, disons, je ferais plein comme un boudin, disons. J'envoie 10 000 $ à Arbka. Puis eux, ils ont des besoins pour donner à des différents missionnaires qui demandent des fonds supplémentaires parce qu'ils en ont besoin. Qu'est-ce que ça fait? Moi, je fais une bonne action aux yeux de Dieu. Celui qui le reçoit, lui aussi, il fait une bonne action. Il reçoit, il est content. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Dieu, merci pour le donateur. Voyez-vous, il se produit de quoi dans l'Église de Dieu? Et il y a beaucoup de missionnaires sur les champs. On se souvient, par exemple, William Carey. Lui disait, « Moi, les Indes, je considère ça comme un gros puits sans fond, noir. Pas très intéressant de descendre dedans. » Il dit, « Moi, je m'attache avec des cordes, puis c'est vous qui tenez les cordes. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? C'est vous qui permettez que je puisse demeurer aux Indes par vos envois d'argent et par vos prières. C'est ça qu'il disait. Moi, je vais descendre dans le trou noir, mais vous, tenez les cordes. Les cordes, ça voulait dire, donnez-moi ce qu'il faut pour que je puisse me maintenir sur le champ missionnaire et n'oubliez pas de prier pour moi. Il descendait dans le trou, puis c'est vrai que dans ce temps-là, des Indes, des années 1800, c'était pas drôle, comme on dit. Alors, les dons sont des bénédictions à trois niveaux. Pour le bénéficiaire, celui qui reçoit, pour le donateur, et aussi pour ceux qui sont au courant. Parce que ça dit dans le verset 12 que ça va faire monter des actions de grâce à Dieu. Si jamais vous recevez un cadeau par quelqu'un, vous êtes mal pris, qu'un chrétien vous aide, n'est-ce pas que vous allez prier, vous allez dire à Dieu, je veux te rendre grâce pour tel frère qui était généreux envers moi. Même si vous ne savez pas son nom. Dieu, il sait c'est qui. Puis il va... Alors, quand on fait un don, c'est des bénédictions à trois niveaux. Bénéficiaires, donateurs, ceux qui sont au courant. On arrive au huitième point, les dons spirituels. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Un bon dispensateur, c'est quelqu'un qui administre ce qu'il a reçu. Si on a reçu quelque chose de la part de Dieu, c'est notre responsabilité de s'en servir le mieux et le plus possible pour faire profiter aux autres du don qu'on a reçu. Voyez-vous, c'est pas moi qui vous dis là, que vous avez reçu un don. C'est la parole qui vous le dit. Ça dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 11. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, il peut donner à une personne de son assemblée un ou plusieurs dons. C'est lui qui distribue souverainement ces choses-là. Alors, pour que les membres de l'Église locale puissent bénéficier de votre ou de vos dons, il faut bien entendu que vous soyez présents aux différentes réunions de l'assemblée. Comment puis-je profiter de votre don si vous n'êtes pas là? Comment pouvez-vous profiter de mon don si je ne suis pas là? Alors, il y a un lien. Le Seigneur nous a donné un don, c'est pour l'utilité commune. Nous avons placé un tableau en annexe à ce document pour vous donner une idée de la richesse et de la diversité des dons spirituels. Si jamais il y en a qui le veulent, c'est ça ici. Ça donne les dons spirituels et avec les versets. C'est très intéressant parce qu'au moins, ils sont tous mentionnés au même endroit. La communion fraternelle, on est rendu au 9e point, acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Hébreux, chapitre 10, versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La Bible nous avertit que plus on va s'approcher de la fin, plus on va avoir besoin les uns des autres pour se conseiller, s'encourager et bien d'autres choses encore. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Les chrétiens auraient également intérêt à reconnaître que la grâce de Dieu est manifestée quand les chrétiens parlent et mangent ensemble, quand ils travaillent et s'amusent ensemble, se réjouissent tout simplement d'être en communion les uns avec les autres. Donc, il y a l'Église, mais aussi, il ne faut pas se gêner d'avoir le maximum d'activités dans lesquels on se retrouve entre frères et sœurs. On est en train de faire la peinture de l'édifice ici, et travailler ensemble, ça apporte une bénédiction. Il y a des joies là-dedans, on voit les choses, il y a des joies là-dedans, c'est réel ça. Alors, il faut essayer de saisir toutes les occasions que Dieu nous donne de profiter d'avoir de la communion fraternelle avec nos frères, dans toutes sortes de cadres. Ça peut être un repas, on peut faire un repas pour Noël, on parle d'aller manger dans un restaurant au mois d'août. Essayez d'être ensemble, parce qu'il y a des bénédictions qui sont rattachées à ça. Le 10e point, l'évangélisation. L'évangélisation est un moyen de grâce, non seulement parce qu'elle communique la grâce salvatrice aux perdus, mais aussi parce que ceux qui évangélisent font davantage l'expérience de la présence du Saint-Esprit et de sa bénédiction dans leur propre vie. L'évangélisation est parfois l'œuvre d'individus, mais il peut également s'agir d'une œuvre collective de l'Église locale. Matthieu 28, versets 19 à 20, on l'a lu tantôt, le fameux passage où Jésus nous commande de faire des disciples de toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il nous dit de faire ça, est-ce que tout le monde ici, on peut partir demain, puis moi, je m'en vais à Haïti, je m'en vais aux Indes, on ne peut pas faire ça. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de sacrifier peut-être un petit plaisir qu'on pourrait s'accorder et le mettre dans les missions internationales. Alors, l'argent va servir à quelqu'un qui travaille dans l'évangélisation. Et c'est un peu comme quand le Seigneur a dit, il a demandé, il a donné des talents, là, puis il a dit, il y en a un qui en avait donné seulement un. Puis il dit, qu'est-ce que tu as fait avec? Je l'ai pris, je l'ai mis dans la terre, j'avais trop peur. Il dit, tu aurais dû le donner au banquier. C'est quoi un banquier? Un banquier, c'est quelqu'un qui fait profiter ton argent. Alors, quelqu'un qui donne de l'argent aux missions étrangères, si lui n'évangélise pas personnellement, au moins, il encourage quelqu'un qui fait de l'évangélisation. C'est ça, le banquier. Fait que s'il donne son argent aux missionnaires, c'est comme s'il faisait profiter le fameux talent que lui, au lieu de l'utiliser, il l'a caché dans la terre. Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Évangéliser, ça peut être local, il faut le faire localement, mais si on a une chance, si on a des surplus un peu budgétaires, il y en a qui l'ont, de donner aux missions étrangères, vous ne perdrez jamais, puis vous investissez dans la meilleure banque au monde, la banque du Seigneur. Parce que la personne à l'autre bout qui se sert de votre argent, et si elle a des résultats, vous allez avoir une partie de la récompense qui est rattachée au missionnaire. Ce ne sera pas juste le missionnaire qui va avoir la récompense. Vous allez en profiter aussi parce que vous avez participé à ce que cette personne-là demeure en place et amène des âmes au Seigneur. Le dernier point, le service, donc des frères et du prochain. Donc, le service des frères et sœurs en Jésus-Christ. Dans Galates, chapitre 6, verset 10, ça dit « Ainsi, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et la fin, surtout envers les frères à la foi. » Alors, quand on est placé devant un choix d'aider un païen ou d'aider un frère, puis qu'on ne peut pas aider les deux, le Seigneur, il dit « Faut que tu commences par le frère. » Le service peut prendre diverses formes, l'encouragement, l'exhortation et le conseil. Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et il y a beaucoup d'autres versets. Donc, encourager, exhorter, conseiller, mais aussi répondre aux besoins matériels des gens. 1 Jean 3, versets 17 et 18, « Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec action et avec vérité. » Seigneur, il dit, si on est capable d'aider quelqu'un, puis qu'on lui ferme, on fait comme si on n'avait rien vu. On est tous portés à ça, là. Faut pas se le cacher. Seigneur, il dit, comment l'amour de Dieu peut-il être dans son cœur si tu fermes les yeux à un besoin d'un frère que tu vois? C'est sévère comme jugement, ça. Là. Donc, le service du prochain, je vais vous lire, on va terminer là-dessus en vous lisant la partie de Luc 10 où le Seigneur veut rappeler aux Juifs c'est qui son prochain. Parce que ce verset, Luc 10, verset 29 à 37, « Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. » Un sacrificateur, ça c'était les dirigeants spirituels religieux de l'époque, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Comme, oh, il est dans le trouble, mais moi, je ne me tente pas. Après ça, un Lévite, encore un autre religieux, qui arriva aussi dans le lieu, l'ayant vu, passa outre aussi. Mais un Samaritain, puis pour les Juifs, les Samaritains, c'était comme des ennemis. C'était comme, il est considéré comme des païens. Alors, le païen passe, Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies, en y versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Le Seigneur dit, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Alors, ça nous dit que notre prochain, c'est pas juste les frères et les sœurs en Jésus-Christ, c'est tout le monde. Alors, quelles sont les applications, les leçons qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? Ceux qui négligent les réunions de l'Église locale se privent volontairement eux-mêmes et les autres des bénédictions que le Saint-Esprit utilise pour bénir son peuple. Implorons le Seigneur de nous sonder pour nous montrer nos manquements à cet égard et demandons la grâce de corriger la situation. 2e application, rendons grâce à Dieu de la grande richesse et de la diversité des moyens de grâce. Ces moyens de grâce devraient nous aider à mesurer l'immense privilège qui est le nôtre d'être membre du corps de Christ, l'Église locale. S'il y en a 11, la première chose serait peut-être de les connaître. La deuxième chose serait peut-être d'examiner est-ce qu'on les utilise. Si le Seigneur veut déverser des grâces sur nous, puis on n'utilise pas les moyens qu'il nous donne, je vais laisser 3 petits points de suspension. Alors, que l'Éternel soit loué, béni et adoré pour sa bonté, sa sagesse. Amen. Je fais simplement vous rappeler que si j'ai une feuille sur les dons spirituels, c'est fait par l'Église réformée de Beauce. Il y a 8 concepts de base qui concernent les dons spirituels et lui, il y en a 15 non, qui identifient clairement. Si jamais ça vous intéresse de les savoir, au moins vous savez c'est quoi un don spirituel. Un don spirituel, c'est pas un talent que Dieu nous a donné. Comme disons que vous avez le don de la voix de la musique, c'est un don spirituel, ça le dit, donné par l'Esprit de Dieu lui-même. Alors, si jamais il y en a qui sont intéressés à les avoir, vous me les demanderez, vous ferez des photocopies. Alors, notre Dieu, notre Roi, merci encore une fois de nous avoir rappelé que tu es un Dieu immensément, infiniment généreux. Tu nous as laissé une multitude de moyens pour que tu puisse déverser sur nous des moyens de grâce. Alors, Seigneur, c'est à nous de connaître les moyens de grâce, c'est à nous de les utiliser avec abondance afin de profiter de toutes les bénédictions que tu veux nous donner. Alors, Seigneur, permets qu'on soit attentif à ces choses et qu'on applique ce qu'on a vu aujourd'hui pour ta plus grande gloire. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.